Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Stéphane étant cloué au lit par un vilain virus, c'est moi qui le remplace au pied levé pour vous faire un petit compte-rendu de l'actu de la semaine. Tout a été plutôt calme, la période de folie de la WWDC commençant à s'essouffler. Une rumeur a tout de même fait du bruit annonçant la mise en pause des travaux sur le Vision Pro 2. Qu'est-ce qui s'est passé? On revient là-dessus avec Christophe. Dans le reste de l'actu, la Pradio France interdite en Chine, Mark Gurman va venir de nouveaux produits Apple plus fins et Cupertino va sans doute avoir de nouveaux ennuis avec l'Union Européenne. Nous sommes le samedi 22 juin, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas louper. Bonne nouvelle si vous comptiez acheter un Vision Pro lors de sa sortie en France, il semble que le casque ne sera pas remplacé par un nouveau modèle tout de suite. Salut Christophe, ça va? T'es pas trop triste de voir que le Vision Pro 2 n'aura pas de successeur avant un moment?
Bonjour Félix, ça va et toi?
Eh ben très bien.
J'espère que... une petite pensée pour Stéphane, j'espère qu'il se remet bien. Et pour le Vision Pro, écoute, je crois qu'on va avoir l'occasion d'en reparler.
Oui. Oui, parce que comme je le disais, le Vision Pro 2 devrait prendre encore un peu de temps avant d'arriver. Selon un rapport, Apple aurait mis en pause le développement de sa deuxième génération de casques pour se concentrer sur une autre version moins chère. Dans l'idée, elle serait vendue entre 1200 et 2000 euros en France, ce qui en fait une bonne affaire comparé aux 4000 euros demandés pour l'actuel Vision Pro. L'appareil devrait s'affiner d'environ 30%, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Le nombre de caméras serait revu à la baisse, tandis que les haut-parleurs seraient plus petits. On s'attend aussi à un système de maintien plus simple, mais avec tout de même des écrans similaires. Christophe, toi, un visionnaire à 2000 euros, t'achètes?
Bonne question. J'ai quand même un petit peu l'impression de radoter dans cette affaire, et je suis étonnamment surpris. Donc le Vision Pro ne connaît pas le succès attendu. C'était quand même assez prévisible. Alors il y a un marché hein, pour les casques, on va dire, professionnels, pour l'informatique spatiale, pour des objets qui sont vendus entre... Il y a des casques qui commencent à 2000 euros. Je parle des casques très haut de gamme et qui vont jusqu'à 8 ou 10 000 euros. Ce sont pour des usages très spécifiques. C'est un marché, je ne sais pas, ça doit se compter en dizaines de milliers d'unités par an. Allez, peut-être quelques centaines de milliers. Mais le souci, c'est que lorsqu'on s'appelle Apple, eh ben, c'est un marché qui est complètement insignifiant.
Ouais.
Donc voilà, je suis étonné, mais ça, voilà, quand je disais que je radote, je suis étonné que Tim Cook n'a pas lu le petit livre rouge que Steve Jobs lui a laissé dans son bureau, hein, qui dit tout simplement on commercialise des produits pour le peuple et pas pour les professionnels. Et ben voilà, il a voulu en faire qu'à sa tête. On se retrouve... avec l'Apple des années 90, avec des concepts qui sont effectivement très sympas, ça fait penser au Newton, mais à la fin, on se rend compte que, ça n'atteint pas les chiffres et les sommes espérées. C'est d'autant plus marrant que, en parlant de Jobs, j'ai revu il n'y a pas longtemps cette fameuse vidéo où on l'interrogeait au sujet d'un vrai iPod vidéo, et on voit Jobs, il met ses mains près de ses yeux, on a l'impression qu'il mime un casque, il dit « ça n'existe pas, ça, on ne sait pas faire ». Et je pense que voilà, c'est là, enfin c'est Apple aurait dû commencer par ça, à proposer une sorte d'appareil personnel, spécialisé dans les divertissements. Ça aurait pu être l'iPad vidéo qui n'a jamais vu le jour. Ça aurait pu être le fameux téléviseur Apple et Apple aurait pu promettre, aurait pu vendre. Voilà, vous avez votre salle de cinéma personnelle. Et un prix plus raisonnable serait sans doute bien marché. Alors là, tu me parles de quelque chose entre 1200 et 2000 euros. C'est déjà plus raisonnable. Après, il va quand même falloir passer la vitesse supérieure en termes de divertissement. C'est une chouette démo technique, le Vision Pro.
Ouais.
Mais voilà, par exemple, donc on parlait de vidéos, de regarder des films et des séries. Mais il faudrait pouvoir y jouer aussi avec cet appareil. Et je suis désolé, là, les jeux qu'on voit, c'est pas sérieux. Enfin,
c'est pas terrible, ouais.
Moi, j'ai essayé il y a quelques années le casque de Sony pour la PlayStation 4, où il y avait vraiment des expériences immersives. Et c'est ce qu'il faut quand on a essayé ça. On se dit, oui, c'est peut-être là le futur du jeu vidéo.
Ouais.
Mais là, il faut vraiment s'en donner les moyens.
Le week-end dernier, le généralement bien informé Mark Gurman a affirmé dans son infolettre qu'Apple comptait affiner ses futurs produits. C'est le pari qui a déjà été fait sur les derniers iPad Pro M4, qui ont perdu quelques millimètres et qui sont devenus les produits les plus fins jamais créés par Apple. Les MacBook devraient eux aussi avoir droit à un régime, tout comme l'Apple Watch et même les iPhones. La théorie, elle semble crédible vu qu'elle a été appuyée par Ming-Chi Kuo, l'analyste taïwanais qui a souvent du flair pour anticiper les nouveautés. Lui, il voit surtout venir une montre avec un écran plus large et un design plus fin. Évidemment, ça pose tout un tas de questions au niveau solidité comme autonomie. Christophe, t'en penses quoi de cette stratégie misant sur la finesse? Est-ce que toi tu voudras un iPhone et un MacBook plus fin?
Alors, Johnny Ive est de retour et personne ne nous a prévenu, c'est ça? C'était dans le cadre du deal avec OpenAI et ils vont recommencer à bosser ensemble. Parce que oui, Johnny Ive collabore avec OpenAI, c'est pour ça que je dis ça. Hein.
Ah oui, c'est vrai.
Ils veulent faire a priori le produit enfin, révolutionnaire à leur intelligence artificielle. On verra ce que ça donne, en
Oui,
tout cas
ouais.
c'est intéressant, il lève beaucoup d'argent en tout cas.
Hmm.
Moi, c'est vrai que je suis de manière générale assez étonné par le conservatisme d'Apple, notamment en ce qui concerne les Mac depuis le passage à l'architecture Apple Silicon. Franchement, j'aurais parié en 2020, quand Apple a présenté ses premiers Mac, qu'on aurait dans un horizon assez proche, par exemple, un portable ultra fin sous le kilogramme. Ça
Ouais.
n'a pas, voilà, si c'est pas le cas, peut-être que ça viendra, c'est à voir. Alors, tu poses effectivement deux problématiques. Il y a celui tout d'abord de l'autonomie. Et je pense que ce n'est pas un souci, parce que ça fait maintenant quelques mois qu'on entend. Alors, ces dernières années, on a fait beaucoup d'années. Enfin, on a constaté beaucoup d'améliorations, notamment sur les écrans, la qualité des écrans. On
Ouais.
compare l'écran, bah, par exemple, tu l'as vu de l'iPad Pro M4 avec ne serait-ce qu'un iPad Pro de 2019, c'est quand même le jour et la nuit.
Oui, ouais.
Niveau processeur, les systèmes sur puce, on a quand même gagné énormément à coup de 15, 20, 30% chaque année. Donc il y a eu quand même une progression assez nette. Maintenant, il y a beaucoup de gens dans l'industrie, et je pense que Mick Chicot dira pas le contraire, que les prochains gros steps, ça va être au niveau des batteries. On
Ouais.
sent qu'il y a il y a des nouvelles technologies qui sont en train de voir le jour, on a eu l'occasion d'en parler. Et ça, c'est quelque chose qui doit arriver. Alors, je ne sais pas exactement, ça pourrait arriver soit cette année, soit courant d'année prochaine. D'ailleurs, ça va assez bien avec la rumeur de cet iPhone. Donc, on sera sur de l'iPhone 17 à ce moment-là, qui serait, paraît-il, ultra fin. On peut imaginer qu'il embarque une nouvelle technologie de batterie et qu'il soit capable non seulement d'être fin, mais de tenir aussi longtemps que les modules actuels, et j'espère même un peu plus. Donc Apple, je pense, va pouvoir. Et donc je pense que c'est ça qui a sans doute ces nouvelles batteries qui ont sans doute poussé Apple à se dire, tiens, bah, on va peut-être revenir en arrière, on va refaire maintenant des produits un peu plus fins. C'est mes prévisions, on va dire.
Oui,
Après, voilà. J'espère que ça va être, en tout cas, j'espère que ça va aussi se voir sur les produits très portables d'Apple. Alors je pense aux AirPods, je pense aux Apple Watch, je pense à l'Apple Watch Ultra. Parce que moi, je continue à penser que la blague de recharger son Apple Watch tous les jours est un frein pour de nombreuses personnes.
Ouais.
Ça, c'est un souci. Il y a le deuxième point, par contre, où effectivement, je pense que c'est un vrai défi, c'est la fragilité. Plus c'est fin, plus c'est fragile, et puis il y a des technologies de batterie en fonction de là où on va les trouver qui pourraient être relativement fragiles. Ça, c'est une vraie question. Moi, par exemple, enfin, je parle de mon exemple personnel, j'ai un MacBook Pro 14 pouces. J'en suis très content. C'est sans doute le meilleur Mac que j'ai jamais eu. Il n'est pourtant pas exceptionnellement fin, mais c'est surtout son écran qui me fait un petit peu peur. Enfin, j'ai l'impression d'avoir une machine qui est déjà assez fragile entre les mains. Et pour moi, c'est même une machine qui est peut-être qui me semble plus fragile que le bon vieux MacBook Air qu'on a connu pendant des années. Donc, effectivement, je pense que le véritable défi d'Apple se situera là.
Ouais. Nous, on a un iPad Pro M4 à la rédac qui fait 13 pouces. Et c'est vrai que ouais, du coup, ils ont opté pour la finesse. La tablette est vraiment ultra légère, très fine, tout ça. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore eu de mauvais retours là-dessus sur Reddit. Enfin, il n'y a pas eu de Ben Gate, donc pourquoi pas. C'est vrai qu'au début, je pensais que les quelques millimètres en moins, là, ça allait pas changer grand-chose. Mais au final, c'est quand même bien, bien sympa.
Par contre, et pour contredire par rapport à ce que j'ai dit précédemment, il me semble que son autonomie est correcte sans être formidable pour un iPad.
Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, les iPads, je trouve que leur autonomie n'a jamais été fofolle. Enfin, là, moi, j'ai un iPad Pro chez moi de 2020, je crois. J'ai l'impression de passer mon temps à le recharger. Celui-là, c'est un peu pareil. J'ai l'impression que dès que je tourne le dos, la batterie, chute.
Bah, j'ai l'impression qu'il y a eu une coupure avec les iPads. Il y a eu des. Pas dire pendant les 5-10 premières années, Apple faisait des iPads qui étaient vraiment au niveau autonomie increvable. Et effectivement, à partir du moment où ils ont sorti des iPad Pro et les iPod Pro qui se distinguaient vraiment des autres modèles,
Ouais.
ouais, c'est devenu un petit souci. Enfin, disons que le problème, c'est Alors, quand on travaille beaucoup, la batterie peut se recharger assez vite. Mais le problème, c'est que si on laisse traîner, mais ça, c'est aussi vrai avec les Mac, pendant 2-3 jours sans les utiliser, parce qu'il a absolument voulu recevoir toutes les notifications et autres mails, on se retrouve avec 20 ou 30% de batterie en moins et c'est assez désagréable.
Ouais. Les apps Radio France et France Inter ont été retirées de l'App Store en fin de semaine. L'administration chinoise a jugé que l'app de la station comportait du contenu illégal en Chine. De son côté, le directeur du numérique et de la stratégie d'innovation de Radio France, Laurent Frisch, affirme que l'app influencerait l'opinion publique chinoise. C'est pas la première fois qu'Apple se plie aux demandes du Parti communiste. En avril dernier, Apple avait enlevé plusieurs apps de messagerie comme WhatsApp, Signal ou Telegram sur un motif de sécurité nationale. Christophe, on a une idée de ce qui a fait sauter les apps Radio France?
Tout d'abord, je tiens à remercier le gouvernement chinois. J'ignorais l'existence de ce podcast consacré à Xi Jinping. Voilà, ça occupera mes sorties à vélo cet été. Enfin, disclaimer, je fais du vélo dans un pays où le fait d'écouter au casque est légal. Hein. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, Radio France réalise depuis quelques années des séries de podcasts sur des personnalités marquantes. Alors, de mémoire, ils ont fait des séries de podcasts sur Poutine, Pétain, Napoléon, Churchill, Le Pen et quelques autres. Donc, souvent, c'est des séries de 5-6 épisodes. D'ailleurs, là, on va tout petit peu diverger, mais j'ai un petit conseil. Justement, les grandes vacances approchent, donc on va vous laisser un peu de temps d'oreille disponible, parce qu'à un moment donné, on va bien partir en vacances. Et on ne peut que vous encourager à écouter le podcast de Radio France consacré à Léon Blum. Du fait de certains événements politiques tout assez récents, son nom est revenu dans l'actualité. Et ça a été l'occasion de vérifier que c'est quand même un personnage relativement méconnu dans l'histoire politique française du XXe siècle. Et que de nombreux hommes politiques, de gauche, de droite, d'où vous voulez, ne connaissaient d'ailleurs pas grand-chose à son sujet. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Alors, en ces temps d'élection, je précise que voilà, c'est pas du tout une opinion politique que je cherche à exprimer ou quoi que ce soit. Vous soyez de gauche ou que vous soyez de droite, écoutez cette série de podcasts, c'est intéressant. Et voilà, et si vous alliez dans une école Léon Blum ou si vous aviez par exemple un square à son nom près de chez vous, et ben au moins ça vous permettra d'en savoir un peu plus enfin voilà, de vous ouvrir les esprits. Et est-ce que tu connais le point commun entre Léon Blum et Phil Schiller? Oui, parce qu'il faut quand même retomber sur ses pattes à la fin.
Non.
On s'est un peu tiré par les cheveux. Alors, justement, dans ce fameux podcast, voilà, il y a une phrase qu'il citait a priori assez souvent. Et il disait donc, je cite, J'ai dit qu'il y a deux choses qu'on ne pourrait jamais me reprocher, le manque de courage et le manque de fidélité. Le courage, comment dire, ce concept si cher à Apple. Et voilà, et comme d'habitude, a fait Apple, on a pu remarquer qu'elle a fait preuve d'un grand courage. D'ailleurs, j'ai souvent remarqué qu'Apple avait plus de courage à Bruxelles qu'à Pékin. Mais ça, je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ceci dit, bon, alors que le gouvernement chinois fixe sa population, ça on le savait. Mais de se dire que, il surveille quand même l'actualité d'une application française avec des podcasts qui sont en français. Enfin, c'est quand même pas non plus. Je sais que le français est relativement populaire en Chine, mais de là à dire que voilà que les podcasts de Radio France vont influencer négativement le peuple chinois,
Oui.
quand même un peu de mal à y croire.
Oui. Apple n'est pas sorti des ronces avec le DMA. Si la pomme a bien dévoilé un plan pour se plier aux nouvelles règles de l'Europe, il n'a pas eu les effets escomptés par les régulateurs. La commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, a déclaré qu'Apple avait un certain nombre de problèmes très sérieux par rapport aux nouvelles règles. On va voir ce que ça va donner. L'institution a ouvert une enquête portant sur d'éventuelles infractions de la part d'Apple au mois de mars. La commissaire a annoncé espérer que les conclusions soient révélées prochainement. Christophe, Apple a bien joué ses cartes niveau DMA. On rappelle qu'elle risque tout de même une amende allant jusqu'à 10% de son chiffre d'affaires annuel mondial total.
Moi, dans cette affaire, je suis un peu comme Guignol. Je sais pas qui taper avec mon bâton. Non, parce qu'on peut en vouloir à l'Union européenne qui a pondu une réglementation, on va dire, indigeste, une vraie usine à gaz. Voilà, et sans doute avec comme principal objectif d'embêter les GAFA ou les Big Tech, vous les appelez comme vous voulez, plus que pour changer la vie des consommateurs. Et voilà, donc d'un côté et de l'autre, on a Apple qui a quand même fait preuve d'une remarquable mauvaise foi dans cette histoire, voilà.
Oui.
Donc, voilà, et qui n'a jamais. Voilà. Et surtout, on a jamais senti une folle envie de collaborer entre les deux parties. Alors, à qui la faute? J'en ai absolument aucune idée. J'ai surtout l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'affichage politique de cette affaire. Alors, on parle effectivement, comme tu dis, d'une affaire qui pourrait aboutir sur une amende de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Alors, comme toujours, il y aura, parce qu'il va y avoir sans doute un jour un effet d'annonce, Apple se prend une amende de 10, 15, 20, 30 milliards de dollars, ça fera ça fera les gros titres dans la presse, puis cette affaire ira dans les tribunaux, ça va durer des années, et souvent, à la fin, les GAFA paient beaucoup moins que ce qui était annoncé au début. Et à la fin, personne, voilà, tout le monde croit que Google ou machin va payer 5 ou 6 milliards de dollars, et à la fin, c'est des chiffres beaucoup plus petits. Donc voilà, au final, je suis pas certain que tout cela fasse avancer le schmilblick, et est-ce que la mise en application des DMA, DSA et compagnie va servir à autre chose qu'embêter les services juridiques des Big Tech? Parce qu'à la fin, je crois que le souci, c'est pas tant les règles d'Apple, même s'il y a beaucoup de choses à redire. Le vrai souci pour nous, Européens, c'est qu'on n'a aucun géant dans le domaine de la high-tech. Et ce serait bien qu'un jour cela change, mais je ne suis pas sûr que ajouter des réglementations y change quelque chose, malheureusement.
Eh bien, merci Christophe pour ce petit résumé de la semaine.
Bon week-end à tous.
À bientôt et bon week-end. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao.